19h05 dans 2 secondes. Juste pour vous informer qu'on vous tiendra au courant tout au long de l'émission. Je vous rappelle, l'émission d'avant-match, les Alouettes affrontent ce soir les Blue Bombers à Winnipeg. C'est à compter de 20h. D'ici 20h, vous serez informés des développements météo, évidemment, ce qui se passe, entre autres, du côté de Gatineau. On sait que ça approche, ça devrait venir du côté de Montréal. Pas la même intensité, comme vous venez d'entendre dans le bulletin de nouvelles, mais soyez assurés qu'on vous tiendra au courant. Philippe Quentin est avec nous. Salut, Philippe.
Jérémy.
Bon, écoute, à défaut de parler de vent fort, on va parler du Canadien. Ouais. Écoute, Canadien qui domine, qui gagne 5-2 contre Washington. Max Domi qui s'excuse. On retranche pas moins de 23 joueurs. Il y a de l'action chez le Canadien?
Oui, il y a de l'action, mais je pense quand même que la principale nouvelle de la semaine, c'est ce coup de Max Domi. On attendait tellement de ce jeune homme-là depuis qu'il a été acquis en retour de Galchenyuk. C'était vraiment une carte cachée. Ça demeure peut-être un espoir là, pour le Canadien. Je parle de carte cachée dans la mesure où on le connaît finalement pas tant que ça, puis que c'est un gars qui a pas des statistiques très ronflantes. Remarque, il a quand même réussi un bon nombre de passes. Mais c'est important, je pense, pour lui de bien commencer avec le Canadien. Et malheureusement, il a raté son entrée en scène de façon tellement claire et de façon tellement regrettable en plus. Ça me rappelle un peu comment Andrew Shaw avait commencé, oui. Tu te souviens, Jérémy, en 2016. Oui. Un de ses premiers matchs, sinon son premier match, je pense, préparatoire au Centre Bell. Il avait frappé par derrière un joueur des Capitals de Washington, s'était battu, avait essayé d'entraîner la foule à applaudir, à l'appuyer dans le combat. Bref, c'était un peu désolant de voir ça. Shaw, par la suite, n'a certainement pas eu les saisons qu'on espérait, en tout cas jusqu'à maintenant à Montréal. Je pense pas qu'il faut faire un lien de cause à effet entre les deux, mais ça avait mal commencé pour lui. Et là, Domi, aujourd'hui, à tout le moins, je constate qu'il a pris la bonne avenue, je pense, en disant qu'il regrettait son geste, et je pense que ça semblait assez senti. On a vu également Claude Julien qui, hier, avant le match du Canadien contre les Capitals aussi, a été beaucoup plus réservé face à cet incident-là qu'il l'avait été après la rencontre. Tu te souviens, après la rencontre, il avait dit « Ah, ben écoute, ça arrive. »
Il y a eu des coups de bâton.
Puis je peux pas rien faire. Là. Il y avait une réaction qui, moi, m'a pas beaucoup impressionné, je dois admettre, mais avant la rencontre contre les Capitals de Washington, il a été beaucoup plus clair et je pense que ça, c'était bien. Alors, il a bien fait d'agir ainsi. Et là, ben, Domi, il faut espérer qu'il en tire véritablement une leçon. Il a simplement 23 ans. Ça demeure un espoir pour le Canadien. Il faut que ça marche là avec des gars comme lui. C'est ça un peu l'avenir du Canadien. Là. Il faut qu'un de ces jeunes-là réussisse à percer. Et bien sûr, les plus vieux parmi les jeunes, c'est-à-dire ceux de 23 ans, doivent théoriquement le faire avant ceux qui ont 18 et 19 ans. Alors, souhaitons que Domi mette ça derrière lui puis qu'il reparte sur des bases plus solides. C'est sûr que au niveau d'une suspension, c'est pas énorme parce qu'il ne reste que des matchs pré-saison. Mais il en reste pas moins, je suis convaincu que le Canadien aurait aimé l'utiliser pendant ces matchs pré-saison.
Pas plus brillant avec Blad qui, aujourd'hui, le menace directement en disant « Quand on va se revoir le 28 décembre, on va régler nos comptes. » Tu sais, je veux dire, écoute, je trouve qu'on est rendu dans un freak show avec cette histoire-là de bagarre. Un moment donné, c'est une gaffe monumentale que Domi a fait. J'utilise le terme, c'est un sucker punch. Il n'aurait jamais dû faire ça. Mais là, à un moment donné, il va falloir que la Ligue embarque là-dedans parce que sinon, ça va être quoi? Rendu des combats de gladiateurs?
Mais tu sais, c'est ça. C'est le 28 décembre, le prochain match.
Exact.
Il peut se passer bien des choses le 28 décembre. Là. Et ce que je crois aussi, c'est que la Ligue nationale prend note de ça. Hein. C'est clair que si les deux joueurs sont en uniforme ce soir-là, que personne n'est blessé, c'est sûr que l'arbitre, avant la rencontre, va s'adresser aux entraîneurs, va s'adresser aux joueurs. Tout le monde va être prévenu pour éviter les dérapages.
Ouais, mais qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? C'est clair ce qu'on va faire, c'est tu sais quoi? C'est qu'on va avertir tout le monde pour dire, écoute, ça prend pas d'escalade de violence. Et quand les deux gars vont être sur la patinoire, on va les laisser faire.
Non, c'est fort possible. C'est fort possible, malheureusement, que tu aies raison. Mais ça, c'est le contexte de la Ligue nationale. On avance à petits pas dans la discipline sur la patinoire. Moi, je suis quand même assez... impressionné, c'est peut-être un mot qui est trop fort, mais je suis quand même content de voir comment la situation a évolué au cours des dernières années. Tu sais, souviens-toi, Il y a quoi, 6 ou 7 ans de ça, quand on parlait des bagarres dans la Ligue nationale, beaucoup de gens disaient, hey, ça pourra jamais arrêter, il faut qu'il y en ait. Même Gary Bettman disait, les bagarres, c'est ce qui fait, ça sert comme un thermostat hein, pendant un match, ouais. Tu sais, pour baisser la température quand il fait trop chaud, tu mets la climatisation, je sais pas trop. En tout cas, c'était une figure de style ouais. Un peu semblable à celle-là. Et bien des gens disaient, hey, les estrades vont se vider s'il y a plus de bagarres, l'intérêt va être moins là. On savait bien que tout ça, c'était des folies. Et que ça ne s'est pas du tout produit. Et il y a beaucoup moins de bagarres qu'auparavant. Je pense que de façon générale, les joueurs se respectent plus sur la patinoire qu'auparavant. Il y a 4 ou 5 ans, souviens-toi, il y a eu en début de saison, il y a eu énormément de suspensions et des longues suspensions en plus pour des coups à la tête qui avaient été donnés, des 5 matchs, des 6 matchs. Et là, on en voit quand même un peu moins. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, ça progresse, il y a moins de bagarres, il y a peut-être probablement moins de coups violents.
Philippe, je vais dire, il y a tellement d'argent impliqué dans tout ça. Je pense que la priorité, c'est qu'on veut la sécurité pour chaque joueur. Philippe, le temps file rapidement. Je veux te parler absolument de l'Agence mondiale antidopage qui a décidé de réintégrer la Russie. Et je veux te faire entendre un extrait. C'est un bijou d'entretien que Jean-Luc Brossard a donné ce matin à nos collègues Paul Arcand et Alain Crête sur comment ils voient justement ce qui se passe présentement avec le mouvement olympique. On l'écoute.
Le message que ça envoie, en quelque sorte, c'est que si vous êtes un athlète et vous désirez vous doper pour améliorer vos performances, pour avoir des médailles olympiques ou des médailles de championnat du monde, si vous promenez d'une nation qui est forte, qui est puissante, qui donne beaucoup d'argent au Comité international olympique et qui a une influence certaine, ben vous allez être finalement, il n'y aura aucun problème à être dopé et à passer les tests antidopage en toute quiétude finalement. Parce que ce que l'AMA a fait en réintégrant la Russie, c'est de passer la couverte sur non pas 1 ou 2 cas de dopage, mais près de 1000 cas de dopage d'un seul coup. Mais maintenant, quand l'AMA vient de dire, ben tout ça, ça ne compte plus. Vous avez outrepassé les règlements, mais il n'y a pas de problème, les amis. On vous réintègre et la vie est belle. Continuez de donner du cash pour le CIO. Ben ça envoie un bien drôle de message à toute la communauté athlétique mondiale, certainement, mais aussi un message, je pense, qui est aigre-doux à tous les spectateurs, à tous les gens qui peut-être croyaient encore à une certaine pureté du Comité international olympique. Et c'est la réalité qui doit tellement être frustrante pour ces athlètes de pointe-là qui, tu sais, faut comprendre que les autres, à tous les jours l'été, ils se sortent le cœur de la poitrine, là, tellement que leurs entraînements sont intenses, à tel point ils doivent pousser. Et je sais pas comment ils font pour garder la flamme très, si présente. Je suis convaincu qu'ils vivent d'espoir que ça n'arrivera pas, que ça va changer. Et jusqu'à tout dernièrement, ben, l'Agence mondiale antidopage, c'était le repère de se dire, ben, ils vont se faire pincer parce que l'Agence est présente. Mais maintenant, en réinsérant ces athlètes russes, ben l'agence vient de passer un drôle de message en voulant dire on n'est pas là pour tout le monde, on est là pour certains d'entre vous, mais si vous êtes de pays douteux, ben tant pis, eux vont passer, puis vous, ben ramassez-vous avec les miettes.
Philippe, après les scandales financiers, est-ce que c'est la fin de la crédibilité du Comité international olympique et de l'Agence mondiale antidopage?
Ben, c'est sûr que c'est une période très délicate, puis je comprends très bien les propos de Jean-Luc, qui a toujours été très conséquent dans ses propres analyses de la question. Je trouve ça néanmoins juste un peu sévère, je vais te dire pourquoi, c'est que il y a quand même eu des sanctions qui ont été imposées par le Comité international olympique à la suite des enquêtes de l'Agence mondiale antidopage après les Jeux de Sochi. Il faut pas oublier là que juste avant le début des Jeux cette année à Pyeongchang, il y a 45 athlètes russes qui souhaitaient participer aux Jeux, dont plusieurs champions de Sochi, plusieurs médaillés de Sochi, qui ont été exclus des Jeux, qui n'ont pas pu participer. Et d'autres, qui, au-delà de, en fait, ils sont dans les 45, mais une trentaine, un groupe d'environ 30, n'avaient même pas été sanctionnés pour dopage à Sochi. Mais leur profil faisait en sorte qu'après étude, on a décidé de ne pas les inviter à Pyeongchang. Alors, il y a quand même eu des sanctions. C'est pas pour rien que les Russes étaient assez furieux de la tournure des événements. Il n'y avait pas de raison d'être furieux, à mon avis, mais il l'était quand même. Il y a quand même eu, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu des sanctions, puis il y a des athlètes, dont plusieurs médaillés potentiels, qui n'ont pas participé aux Jeux de Pyeongchang. Alors, tu sais, il y en a eu des sanctions. C'est pas vrai que les Russes, on a passé l'éponge et puis que qu'il n'y a pas eu de sanctions, puis tout ça, il y en a eu quand
ouais,
même.
Je comprends, mais d'accepter de la part de l'Agence mondiale antidopage le retour de la Russie sans avoir, ce qu'on demandait, c'est que la Russie avoue ce qui s'est passé là-bas et qu'ils prennent le blanc, mais on n'a pas eu besoin de ça. Et non, la Russie est réintégrée.
Ben, en fait, oui et non. En fait, on est dans la diplomatie, là. Hein. C'est sûr que là, il y a un pouvoir de force, il y a un rapport de force entre la Russie et l'Agence mondiale antidopage. Mais juste pour expliquer, là, pour faire court, une situation qui est quand même assez complexe, il y a eu le rapport McLaren. Le rapport McLaren a levé le voile, a confirmé tout ce qui s'était passé à Sotchi, qui avait été révélé par l'ancien directeur du laboratoire de Sotchi, Grigory Rodchenkov. Lui avait fait ces révélations-là au New York Times. Une fois les révélations publiées, il y a eu une enquête de l'Agence mondiale antidopage par M. McLaren. On a tout confirmé ce qui s'était passé. À la suite de ça, le Comité international olympique a fait d'autres enquêtes, dont une faite par un ancien président de la Confédération suisse qui s'appelle Samuel Schmidt, qui a confirmé ce que disait McLaren. Alors là, les Russes, ils disent, ben nous, on n'accepte pas les recommandations. En fait, ils parlent pas de McLaren. Ils disent, on va se rallier aux recommandations de Schmidt, qui confirme les allégations de McLaren. Alors, il y a quand même une c'est pas la reconnaissance qu'on espérait. Je suis entièrement d'accord avec ça, puis ils s'en sortent bien. Mais il y a quand même une mini-reconnaissance.
Veux pas, il y a quand même un œil au beurre noir à l'Agence mondiale.
Gros, ah oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Et dans les circonstances avec le Comité international olympique, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un cas douteux. Mais c'est mon humble avis, Philippe.
Ben, écoute, c'est un avis qui est très partagé par beaucoup de monde et qui est plein de bon sens aussi.
Philippe,
mais il y a de la politique dans tout ça.
Ah, beaucoup
sûr.
De politique. Philippe, je te souhaite un bon week-end.
Okay,
merci d'avoir
salut,
été
Jérémy.
Avec nous. On s'arrête quelques instants. Au retour, résumé complet de cette journée chez le Canadien de Montréal. Martin McGuire est avec nous.